La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus, le Seigneur, notre frère. Chers amis, bienvenue dans ce lieu de prière en ce dimanche matin. Que vous soyez habitués à y venir ou que ce soit la première fois peut-être pour vous, en ce mois d'août, il est tout à fait possible que l'on puisse se déplacer dans d'autres temples. Donc bienvenue à vous et bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent par le biais des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Et je vous invite pour commencer ce temps à la prière. Et c'est Alexandre Korovitz qui va accompagner tout ce culte à l'orgue ce matin. Je vous invite à la prière. Éternel, nous voici rassemblés à ton écoute. Nos cœurs pleins de ce que nous vivons hors de ce temple. Accorde nos cœurs à ta parole. Permet que nous puissions y discerner ce qu'il est juste que nous fassions dans nos vies. Fais-nous entrer dans la communion fraternelle avec ceux qui sont ici, mais aussi avec le prochain que tu mettras sur notre route. Bénis ce temps de halte, bénis ce temps que nous t'offrons. Amen. Et je vous invite à prendre dans les psautiers français, au tout début, vous avez toute la liturgie avec les réponses. Et je vous invite à chanter ensemble en nous levant. Nous louons le Seigneur ensemble avec le psaume 19. Du répertoire du chef de chorale, psaume de David. Les cieux proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots. L'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière. Leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans les cieux une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît, tel un jeune marié qui sort de sa chambre, un champion tout heureux de prendre son élan. Il surgit à une extrémité des cieux, sa course le mène à l'autre extrémité, rien n'échappe à ses rayons. L'enseignement du Seigneur est parfait, il redonne la force de vivre. Les ordres du Seigneur sont sûrs, ils rendent prudents les gens ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une chose pure qui persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées, toutes sans exception sont justifiées. Elles sont plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux, et plus agréables que le miel le plus doux. Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement. On a tout avantage à suivre tes avis. Tout le monde fait des erreurs sans le percevoir. Pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. Préserve-moi aussi des insolents, qu'il n'ait aucune prise sur moi. Ainsi je serai sans reproche et préservé d'une faute grave. Ce que j'ai dit, ce que j'ai médité devant toi, j'espère que cela te sera agréable. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Amen. Je vous invite à chanter ensemble notre louange avec le psaume 100 dans la version B, dans le psautier français, les strophes 1, 2 et 3. Psaume 100. Je vous invite à vous asseoir et nous entendons la volonté de notre Seigneur à travers les Écritures. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Si ce n'est le Seigneur qui garde la ville, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de la peine. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Devant le Seigneur en toute confiance, nous pouvons lui remettre ce qui nous sépare souvent de lui. Et nous prions avec cette prière écrite par André Dumas. Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne, surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin que quelqu'un soit auprès de moi, quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors, et avec les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté. Ô Dieu, j'ai besoin de toi. L'Éternel vit en nous et je vous invite à vous lever pour recevoir sa grâce renouvelée sur chacun de nous. Que son esprit nous anime, sa force transforme notre faiblesse, sa miséricorde nous relève de notre misère, sa vérité confond nos mensonges, sa liberté ouvre nos différentes prisons. C'est pourquoi le dernier mot à notre sujet ne sera pas le nôtre, mais le sien, celui de son pardon et de son amour. Il nous redit ce matin, « Ma grâce te suffit ». Chantons notre reconnaissance. Pardon, Alexandre. Confessons ensemble notre foi. Je crois en Dieu sans pouvoir le définir. Il est la transcendance qui donne une autre dimension à ma vie. Je ne connais pas son nom, je n'ai de lui aucune image, mais toujours dans ma vie il est là, comme une lumière qui éclaire mon chemin, un vis-à-vis dans la solitude des jours. Je crois que si ma foi vacille, il croit en moi sans se désespérer, et c'est mon espérance. Je crois en Jésus et je crois qu'il est le Christ. Dieu s'est révélé à lui et l'a pris pour fils. Il a cru en l'amour de Dieu et a aimé son prochain inconditionnellement. Il a été fidèle jusqu'au bout, loyal jusqu'à en mourir. Son exemple me conduit. Jésus est pour moi un maître de sagesse. Sa résurrection a lieu chaque fois que nous marchons dans ses pas. Je crois en l'Esprit Saint et je ressens son action entre les hommes qui veulent faire advenir le royaume de Dieu. Il nous réunit dans la communion fraternelle. Il me reprend quand je m'égare. Il éclaire les ténèbres de ma vie. J'ai confiance en son souffle. Il m'a tant de fois sauvée. Je crois en l'homme quand il transforme le monde pour le rendre plus juste, plus beau et habitable pour tous. Je crois que nous faisons ce que nous pouvons, même si ce n'est pas assez. Et j'ose croire que la foi, l'espérance et l'amour président à l'action de beaucoup sur cette terre. Je crois qu'il me faut ressusciter chaque jour de ma vie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Ce n'est absolument pas grave, non, non. C'est ma liturgie qui s'envole. Non, non, mais tout va bien, celle-ci, elle est lue. Je vous invite à entendre le texte biblique que j'ai choisi de partager aujourd'hui avec vous. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, les versets 33 à 40. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou bien est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je donc juif, moi ? C'est ta nation et les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Toi, tu es donc roi ?» Jésus répondit « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né, et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit, « Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque, « décidez donc, vous relâcherai-je le roi des Juifs ?» Alors ils se remirent à crier, « Pas cet individu, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un bandit. Je vous invite à chanter le cantique 297 dans les recueils louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3, 297. Et nous nous levons. Nous prions ensemble. Éternel, apprends-nous à écouter ta parole, qu'elle entre dans nos cœurs et nous inspire aujourd'hui, comme elle inspira les hommes et les femmes d'hier qui ont transmis leur témoignage de foi dans la Bible. Que ta parole anime nos pensées et nos actes pour que nous devenions des évangiles pour ce monde. Amen. Qu'est-ce que la vérité ? Est-ce une question purement provocatrice que pose Pilate à Jésus ? Ou bien est-il en train de dévoiler la vérité même de notre condition humaine ? Cette question hautement sceptique nous plonge dans un abîme d'où ne peut sortir aucune réponse satisfaisante. Jésus ne répond pas à cette question, mais il dit, avant que Pilate ne la pose, qu'il est né pour rendre témoignage à la vérité et que quiconque est de la vérité entend sa voix. La vérité, selon Jésus, serait donc une langue particulière dans laquelle on pourrait trouver son origine et qui permettrait de le comprendre, d'entendre sa voix, comme il dit. À entendre Jésus, la vérité serait une sorte de terre de communion dans laquelle tous ceux qui y seraient nés pourraient se comprendre entre eux immédiatement et partager ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, sans besoin d'autres explications. Dans l'évangile de Jean, cette vérité entourant le Christ est liée à une nouvelle naissance qui peut avoir lieu dans la foi. La vérité est alors croyance plutôt que savoir. À chaque étape de l'échange entre Pilate et Jésus, le procurateur romain est renvoyé à ses propres paroles. Est-ce de toi-même que tu dis cela ? Ou encore, c'est toi qui dis que je suis roi ? Jésus semble mettre Pilate en demeure d'assumer sa parole, jusqu'à ce que Pilate pose la question « Qu'est-ce que la vérité ?» et que Jésus ne réponde rien, en attendant la décision de Pilate et l'acte qu'il choisit de poser dans cette situation où il a, lui seul, à ce moment précis, un pouvoir. Comment trancher ? Que peut penser Pilate de Jésus avec les éléments qui lui sont donnés ? C'est le problème de toute vérité. Comment la connaître ? Quels critères peuvent nous permettre de déceler ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas ? Une parole même dite sincèrement peut s'avérer fausse par le cours même des circonstances. Les sciences évoluent en nous faisant découvrir que les vérités d'hier sont devenues des erreurs aujourd'hui. Et du côté théologique, le défi semble plus difficile encore, puisque personne n'a jamais vu Dieu et que les spéculations les plus diverses cohabitent dans la même religion, faisant de toutes nos prédications des déclarations à haut risque de fausseté. Sommes-nous alors contraints au scepticisme, même en religion, c'est-à-dire dans la sphère la plus indiquée pour défendre avec force nos convictions? Chaque fois qu'il est question de connaissance, on peut dire qu'il y a une part de doute, car celui qui cherche à comprendre ou à connaître l'objet d'étude qu'il se donne doit faire preuve de prudence et s'en remet, au moins dans un premier temps, à un doute raisonnable sur les hypothèses qu'il avance pour mener son enquête. Il s'agit là de l'esprit critique dans son usage le plus sage. Cette démarche mène certains chercheurs à des certitudes qu'ils choisissent parfois d'avancer comme des vérités absolues. Malheureusement, le temps, l'expérience ou même une science plus élaborée permettent souvent de remettre en question les vérités les mieux établies du monde et son effet de la stabilité du savoir. Devant cette réalité, les sceptiques de l'Antiquité, cherchant comment l'homme pouvait trouver la vie heureuse dans une telle instabilité, défendirent une philosophie de l'abstention de tout jugement. Selon le philosophe Pyrrhon d'Élis, la méthode qui évite tout trouble de l'esprit, c'est de n'avoir d'opinion sur rien, ni sur le bien, ni sur le mal, car, comme l'écrit son disciple Sextus Empiricus, celui qui est dans l'incertitude de la nature des biens ou des maux ne fuit rien, ne poursuit rien avec effort, aussi jouit-il de l'ataraxie, c'est-à-dire d'une sorte d'équilibre des émotions qui fait que rien ne le trouble. Si le Christ recommandait « ne jugez pas », c'est sans doute davantage dans un souci d'éviter tout orgueil que par scepticisme. Car enfin, même si nous ne disposons que des apparences pour juger si une chose est vraie ou fausse, peut-on vivre en cet état de suspension du jugement? Est-ce tenable? Ne faut-il pas se déterminer et agir? Que faire si l'on s'abstient de juger vraies ou fausses les connaissances qui nous sont utiles pour vivre? Pour illustrer ces limites du scepticisme, Molière, dans sa pièce « Le mariage forcé », introduit un dialogue entre un philosophe sceptique nommé Marfurius et Sganarel, qui vient le trouver, donc Sganarel vient pour le trouver et pour lui demander de l'aide pour se déterminer quant à son éventuel mariage. Et voilà ce que cela donne, ce dialogue. Marfurius: « Que voulez-vous de moi, Seigneur Sganarel ?»« Sganarel, Seigneur docteur, j'aurais besoin de votre conseil sur une petite affaire dont il s'agit, et je suis venu ici pour cela. » « Ah, voilà qui va bien, il écoute le monde, celui-ci, » dit Sganarel. Marfurius: « Seigneur Sganarel, changez, s'il vous plaît, cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement, et par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu, mais il semble que je suis venu ». Sganarel: « Il semble. » Marfurius: « Oui. » Sganarel: « Parbleu, il faut bien qu'il le semble, puisque cela est. » Marfurius: « Ce n'est pas une conséquence. Il se peut vous sembler sans que la chose soit véritable. » Sganarel: « Comment ? Il n'est pas vrai que je suis venu. » Marfurius: « Cela est incertain et nous devons douter de tout. » Sganarel: « Quoi ? Je ne suis pas ici et vous ne me parlez pas. » Marfurius: il m'apparaît que vous êtes là et il me semble que je vous parle, mais il n'est pas assuré que cela soit. Sganarel: me voilà et vous voilà bien nettement, et il n'y a point de ce me semble à tout cela. Laissons ces subtilités, je vous prie, et parlons de mon affaire. Je viens vous dire que j'ai envie de me marier. Marcurius, je n'en sais rien. Sganarelle, je vous le dis. La fille que je veux prendre est fort jeune et fort belle. Marcurius, il n'est pas impossible. Sganarelle, que me conseillez-vous de faire? Marcurius, ce qu'il vous plaira. Sganarelle, j'en rage. Marcurius, je m'en lave les mains. À ce moment-là, Sganarelle, dans sa rage, se met à frapper le philosophe et il reprend. Sganarelle, donc, te voilà payé de ton galimatia et me voilà content. Marcurius, comment? Quelle insolence, m'outragé de la sorte, avoir eu l'audace de battre un philosophe comme moi? Sganarelle, corrigez, s'il vous plaît, cette manière de parler. Il faut douter de toute chose et vous ne devez pas dire que je vous ai battu, mais qu'il vous semble que je vous ai battu. Marcurius, ah, je m'en vais faire ma plainte au commissaire du quartier des coups que j'ai reçus. Sganarelle, je m'en lave les mains. Voilà ce qu'on trouve dans le mariage forcé de Molière, ce qui vous dit aussi combien cette attitude de Pilate qui se lave les mains dans d'autres évangiles que celui de Jean est là une chose très importante pour Molière pour montrer cette abstention et ce retrait sceptique des choses qu'il faut décider et là où il faut s'engager. Et là, nous voyons aussi un Molière très audacieux et qui prenait le risque, devant des dévots, avec un texte comme celui-ci, d'avoir bien des problèmes avec le pouvoir en place. On aura donc reconnu ce geste de Pilate de se laver les mains comme signe de l'abstention. Et dans l'évangile de Jean, en revanche, Pilate ne se lave pas les mains de la situation de Jésus. Il va prendre une décision. Il sort et il emploie une stratégie pour pousser la foule à décider elle-même ce que lui espère secrètement. Il est probable que la foule choisisse de relâcher Jésus comme la coutume le permet. Mais la foule choisit Barabbas. Pilate a tenté d'agir dans une situation où il ne savait pas la vérité, ni sur les intentions de la foule, ni sur l'identité de Jésus, ni sur son propre intérêt dans l'affaire. Pilate a fait un calcul d'espérance. N'en sommes-nous pas tous réduits à agir de la sorte, puisque nous ignorons où est la vérité? Ne sommes-nous pas sans cesse en train de calculer le moins mauvais, selon les apparences que nous avons devant nous, pour pouvoir agir? Car il est impossible de ne pas agir dans la vie et de s'abstenir de choisir, comme Marcurius voudrait le faire. Je signale au passage que Marcurius veut dire être rompu de cou. Molière avait vraiment le sens de l'humour jusqu'au mot même. La vie implique des choix constants, et ces choix se font souvent dans une grande obscurité, du moins dans la pénombre de la raison. Mais un calcul de probabilité ne peut remplacer de façon satisfaisante la vérité. Et l'intelligence humaine ne peut se contenter d'une telle méthode pour remplacer ce bien précieux. C'est pourquoi l'humanité cherche la vérité au-delà du savoir scientifique, au-delà même de la raison humaine, et projette l'accès à l'inconnaissable dans l'imagination et parfois dans la foi. Pierre Bell, philosophe protestant, pose ce problème de la connaissance du vrai et déduit des limites même de notre raison, l'importance de la religion. Il écrit « C'est un grand pas vers la religion chrétienne que de s'être confronté aux contradictions de la raison, car elle veut que nous attendions de Dieu la connaissance de ce que nous devons croire et de ce que nous devons faire. Elle veut que nous captivions notre entendement à l'obéissance de la foi. » Si un homme s'est convaincu qu'il n'a rien de bon à se promettre de ces discussions philosophiques, il se sentira plus disposé à prier Dieu, pour lui demander la persuasion des vérités que l'on doit croire, que s'il se flatte d'un bon succès en raisonnement et en disputant. Doit-on renoncer à la raison pour rechercher la vérité ? pour passer du côté de la religion. L'auteur du dictionnaire critique ne saurait le dire ainsi. Pierre Bell ne pense pas les choses de façon aussi lapidaire. Mais il est en tout cas une attitude chère aux penseurs les plus humbles dans la difficulté de trouver la vérité. C'est celle qui consiste à accepter que notre raison ne suffit pas à rendre compte de toutes les vérités de ce monde. Cette prudence et cette part de scepticisme agacent parfois, parce qu'elle oblige à renoncer au savoir ultime sur les choses. Dans cette perspective, en effet, l'homme devient moins puissant dans le monde qui l'entoure et ne peut être la mesure de toute chose, parce que certaines choses le dépassent vraiment. Doit-on le déplorer ? Peut-être la vérité la plus utile à notre humanité n'est-elle pas celle qui nous donne pouvoir sur tout ce qui nous entoure, ni celle qui nous apprend ce que sont les choses une fois pour toutes, mais celle qui nous permet d'agir avec justesse, tout en sachant que certaines choses nous sont cachées et que nous courons toujours le risque de l'erreur. N'est-ce pas là le lieu où la conscience humaine peut s'exprimer et faire des choix qui nous engagent et qui donnent du prix à la vie que nous vivons? N'est-ce pas la vérité sur notre juste place de garder à l'esprit cette question « Qu'est-ce que la vérité ?» toujours ouverte sur notre vie, entre scepticisme et courage. Amen. Je vous invite à chanter dans le psautier le psaume 107, les strophes 1, 2, 3 et 4. Et nous nous levons. Voilà, nous allons partager quelques annonces et c'est Aurore, notre présidente du Conseil presbytéral, qui les partage avec nous.
Merci Béatrice pour ta prédication. Nous ne sommes pas un vendredi saint, mais nous avons pu lire Molière. Une bonne lecture, il faudrait peut-être rajouter Molière à la librairie, Benjamin, mariage forcé. Bonjour à tous, merci d'être là, relativement nombreux pour un plein mois d'août à Paris. Et merci à vous d'être en ligne, nous avons la région PACA en ligne, nous avons la Belgique, nous avons le Canada et nous avons l'Alsace. En tout cas ceux qui se sont signalés dans les petits commentaires. Nous essayons en ce mois d'août d'apprendre à mieux se connaître. Pour ce faire, nous avons fait ça aussi au mois de juillet. Nous sommes allés à Château-Thierry et nous proposons à nouveau à nos paroissiens ou aux visiteurs de ce jour et ou en ligne de nous rejoindre le 21 août. Samedi 21 août, nous organisons une sortie à Château-Thierry, ville de Jean de La Fontaine. Pas de Molière, mais de Jean de La Fontaine. Si vous voulez venir, n'hésitez pas. Béatrice Cléromazir accompagnera cette fois-ci le groupe, ainsi que notre trésorière Juliette Wasson. Agnès avait accompagné le groupe de juillet avec moi-même, et c'était vraiment passionnant d'aller sur les pas de Jean de La Fontaine, qui est un oratorien également, enfin qui a essayé d'être oratorien au tout début de sa carrière, et également d'aller voir ce temple de Château-Thierry, qui est unique, puisque c'est un mémorial offert par les Américains lors de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc cette sortie, si vous voulez, vous vous inscrivez sur accueil @oratoiredulouvre.fr ou en écrivant à Béatrice ou à Juliette directement trésorier@oratoiredulouvre.fr pour le 21 août. Également, si vous êtes en vacances dans le sud en septembre, vous savez qu'il y a l'Assemblée du désert. Nous organisons deux points de rencontre, le samedi au musée et le dimanche pour le culte. Là, de la même façon, vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits à ces deux points de rencontre. Notre conseil presbytéral et notamment Juliette aussi, qui sera en charge avec notre secrétaire de bureau et notre vice-président qui seront sur place, et Agnès qui viendra faire le déplacement. Inscrivez-vous, parce que nous avons notamment besoin de savoir combien vous serez pour le musée le samedi à 16h30 pour faire une visite du musée du désert. Voilà pour les annonces. Béatrice, jeudi, tu es là? Voilà.
Oui,
jeudi 12h30, pause spirituelle ici. Nous avons aussi, je crois, à déplorer un enterrement samedi prochain.
Samedi matin.
Voilà. Oui. Donc, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Au nom du Conseil presbytéral, la librairie est ouverte si vous cherchez des lectures. Et vous avez aussi la prédication du jour et la feuille rose à la sortie. Bon dimanche.
Merci. C'est le moment de l'offrande. Donnez avec la joie que vous avez reçue de notre Seigneur. Je vous invite à la prière. Ce matin, nous prierons d'abord pour la famille de Mazur, qui pleure le décès de Éric de Mazur. Nous les associons à notre prière et nous les portons dans notre prière jusqu'au moment où nous allons annoncer l'évangile et la résurrection d'Éric samedi matin. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui, en ce moment même, sont de nouveau dans la panique de la pandémie. Tous les soignants qui cherchent à tenir bon. Tous ceux qui manquent de moyens pour lutter contre cette pandémie. Tous ceux qui manquent de place pour leurs malades. Tous ceux qui administrent des cités, des lieux où ils ne savent plus comment faire pour sauver des vies. Seigneur, inspire-nous tous la plus grande prudence pour empêcher que nos frères et sœurs ne soient malades. Accorde-nous des cœurs larges pour pouvoir tenir compte toujours du prochain que tu mets sur notre route. Nous te demandons, Seigneur, ton secours pour toutes les cités envahies par les flammes, avec les incendies qui sont récurrents l'été et qui plongent des familles entières dans le désarroi, ayant tout perdu. Bénis-les, Seigneur, et donne-nous d'être là pour eux, avec des gestes de solidarité. Nous te demandons, Seigneur, ton esprit, pour nous éclairer quand nous voulons imposer des vérités. Ton esprit, là où le dogmatisme règne. Ton esprit, là où la liberté de conscience est contrainte. Ton esprit, là où la censure règne. Donne-nous, Seigneur, la possibilité de toujours résister à cette tentation de nous mettre dans la sécurité d'une vérité toute faite, une fois pour toutes. Aide-nous, Seigneur, à ne pas craindre de ne pas tout savoir et à nous en remettre à toi, tout en étant dans un amour plein d'intelligence pour toi et pour notre prochain. Aide-nous, Seigneur, dans cette voie difficile qu'est celle de la raison. Aide-nous, Seigneur, quand il faut garder des arguments plutôt que de se laisser envahir par l'émotion. Aide-nous, Seigneur, à rester vigilants à tous les abus sur la conscience des uns et des autres. Nous te demandons, Seigneur, d'être des porteurs d'évangiles pacifiques, ne demandant aucun pouvoir pour eux, étant là à ton service. Nous te remettons ce monde avec ses blessures, ses incohérences, ses contradictions. Et nous te demandons, Seigneur, d'être des artisans de paix auprès de toi. Et ensemble, nous pouvons dire avec confiance la prière que le Christ a apprise à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'était le moment d'une halte, une halte à l'écoute d'un plus grand que nous, une halte dans un lieu où nous pouvons entendre une vérité qui nous parle au cœur, qui parle aussi à la raison, mais qui est toujours à chercher. Allez sans cesse dans la confiance, le Seigneur vous guidera. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde, quel que soit votre chemin. Amen. Voilà, je vous invite à laisser vos livres sur vos chaises afin qu'il n'y ait pas de transmission davantage du virus. Merci beaucoup. Et c'est Alexandre qui nous accompagne dans cette fin de culte. Merci.